Voilà, vous êtes toujours sur RDWA, toujours aussi sur cette place du Mazel, où se tient la fête de la transhumance, fête de la transhumance qui cette année embarque pour thème le pastoralisme d'une génération à l'autre. Il est question de transition, voilà. Venez vous asseoir. Bonjour Franck.
Bonjour Baptiste.
Tu vois, tu animes comme chaque année cette fête de la transhumance, hein, on peut le dire.
Ah, toujours avec la même passion et la même envie, parce qu'effectivement, c'est une action phare et déterminante pour le territoire.
Avec Prod26, donc, qui est ta société qui fait ça ?
C'est une association.
C'est une association.
C'est pas
pardon.
Une société. On fait ça de façon quasi bénévole, avec une équipe de salariés, à la fois sur des techniciens, des musiciens, et puis énormément aussi de partenariats.
Comme tu animes magnifiquement bien cette transhumance à chaque fois, tu nous proposes un sujet.
Un sujet qui est tout à fait d'actualité avec la thématique de cette fête de la transhumance. L'objectif, c'est la transition des exploitations avec une thématique qui est de génération en génération. Donc si on veut que cette transhumance perdure dans le temps, il faut bien aussi qu'il y ait toujours des éleveurs. Parce que si on n'a plus d'éleveurs, on ne fera plus de transhumance. Et nous avons ici donc Didier Audon, que j'ai été chercher sur son stand, puisqu'il nous fera avec son fils une démonstration de tonte toute l'après-midi.
Qu'on avait eu l'année dernière,
mais on l'avait plus interrogé sur la tonte, sur la transmission de l'exploitation. Ouais. Comment on fait à notre époque, au jour d'aujourd'hui, pour aider son fils à s'installer? Et on a la chance d'avoir Thibaut, son fils qui est avec nous aussi, qui va pouvoir répondre à nos questions sur ce parcours du combattant qui est l'installation d'un exploitant agricole de nos jours. Donc merci à tous les deux d'avoir répondu favorablement à cette invitation.
Merci.
Déjà. Et soyez les bienvenus. Alors concrètement, Didier, votre âge?
Moi j'ai 48 ans.
48 ans, et à partir de quel âge on commence à s'interroger sur la transmission de l'exploitation ?
Ben, moi, je me la suis pas trop posée, parce que tout petit, Thibaut avait cette fibre par rapport au matériel. Déjà, les jeunes enfants sont intéressés par le matériel. Et puis, très vite, lui aussi était intéressé par les animaux. Donc, dès l'âge de 10 ans, j'ai vu que Thibaut allait... Oui, elle partirait pas faire fonctionnaire à la ville.
Oui, et c'est rassurant quand on est exploitant comme ça. On voit que le patrimoine va rester dans les mains familiales.
Ben oui, parce que l'exploitation a été transmise par mes parents et grands-parents aussi à ce même titre. C'est plus une affaire de passion et de vivre dans un territoire et une petite région. Et puis même une commune, quoi, mettre tout son cœur et ses tripes pour y rester, quoi.
Ce qui est assez manifeste quand on te connaît un petit peu, puisqu'en fait, tu es systématiquement sur toutes les manifestations ovines pour montrer ta passion pour le territoire et pour ce métier. Alors, dans l'exploitation, il y a combien de têtes ?
Dans l'exploitation, actuellement, donc depuis le 1er octobre, on y est trois, puisque mon épouse qui travaillait à l'hôpital m'a rejoint dans un premier temps, là, il y a 2 ans. Et puis Thibaut, depuis le mois d'octobre, est rentré dans la... Donc on a fait un groupement d'exploitation agricole en commun. Et donc actuellement, nous sommes trois à travailler sur l'exploitation.
Ah, t'as demandé combien de têtes et combien de personnes qui...
Voilà, maintenant, il y a trois têtes. C'est un grec à trois têtes, ce qui est assez logique pour un grec. Bien que maintenant, je crois qu'avec les nouvelles directives européennes, on peut monter jusqu'à 5. C'est assez récent. Mais combien de têtes en termes d'élevage ?
Eh bien, d'élevage, on a 200 brebis. Donc après, le projet de Thibaut, c'était d'installer des vaches, de mettre des vaches laitières avec transformation fromagère. Donc là, on est en train de développer un troupeau de vaches laitières avec transformation fromagère à la ferme. Donc voilà, c'est plus à lui.
Voilà, ben on va écouter Thibaut maintenant qui va nous parler un petit peu de son projet. Donc le projet est déjà actif, c'était au 1er octobre, c'est ça ?
Oui, je suis installé sur la ferme depuis le 1er octobre, mais... Donc, du moment où j'ai été installé, j'ai commencé, on va dire, à mettre en route, mon projet. Donc là, en ce moment, on est en train de créer la fromagerie, donc la fromagerie en cours de construction. Et l'année prochaine, on continuera par faire une stabulation pour les vaches laitières.
La transformation, ça nécessite aussi beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en plus de faire l'activité d'éleveur, il va y avoir la traite, et en plus de la traite, il va y avoir la transformation fromagère.
Oui, la traite et les travaux des champs, plus après une partie plus importante pour la transformation et la commercialisation.
Oui, ouais. Un vaste, c'est ambitieux quand même. Et tout ça, c'est gérable à trois ?
À court terme, oui, mais si on veut développer le projet jusqu'au bout, non, à 3, ça ne sera pas possible en restant comme est la ferme actuellement. Si on garde, au niveau des cultures, si on reste comme on est actuellement, à 3, on ne pourra pas arriver à tout gérer.
Oui, Didier.
Oui, parce qu'on est très diversifié, donc on a les cultures qui sont liées au troupeau de brebis. Donc l'orge, le foin pour la nourriture du troupeau, plus une activité de vente de céréales, donc en agriculture biologique, une production de lentilles vertes en vente directe, un peu des noyers et de la vigne pour la clairette de Die. Voilà, donc on est bien occupé toute l'année. Donc.
Ouais, ça représente combien d'heures de travail au quotidien pour chacun ?
Ben les heures,
on ne compte pas.
On compte pas. On compte pas. Et voilà. Moi personnellement, je fais ça parce que c'est ma passion. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi, il faut intégrer la notion de revenu et de vie de famille, mais voilà. Alors. Donc là, dans le cadre du projet de Thibault, c'est sûr qu'à 3, ça sera un peu chaud, mais bon, voilà, il faudra que l'on fasse des choix.
Ça permet quand même d'être à plusieurs, donc peut-être de se reposer les uns sur les autres aussi. C'est vrai qu'on se retrouve plus simple exploitant isolé, comme vous avez pu l'être au départ.
Ben, isolé, en fin de compte, quand c'est des transmissions de génération en plus de familiale, de ferme, on se retrouve jamais isolé, parce que les passations de pouvoir... se font petit à petit, quoi. Bon, aujourd'hui, les passations de pouvoir les plus difficiles, ce sont les problématiques liées à l'administratif des fermes, où il y a 30 ans, on n'avait pas ce souci-là. Et aujourd'hui, il faut qu'on passe par cet aspect administratif parce que c'est pour les exploitations d'élevage, c'est très important.
Notamment quand on voit ce que c'est que de remplir un dossier PAC et la masse d'informations qu'il faut communiquer et inscrire, c'est quand même assez considérable.
C'est considérable, et puis surtout qu'on voit que la simplification administrative, elle n'a pas le même sens chez tout le monde.
Alors Thibault, est-ce que ça a été difficile de s'installer en tant qu'exploitant ?
Ben, pour une on va dire reprise d'activité ou... reprise d'activité que la ferme n'aurait sans le projet, c'est pas bien compliqué. Il y a des stages à faire quand même, il y a quelques papiers, on est accompagné, on n'est pas tout seul. Mais là, dans le cas du projet, oui, il y a compliqué. Déjà, pour mon projet, une personne seule n'aurait pas pu s'installer. Ça va qu'il y avait déjà la ferme avant. Et puis au niveau papier, puis ouais, c'est quand même assez lourd, quoi. Ça prend du temps.
Et l'accompagnement, c'est fait par la chambre d'agriculture ?
Oui, la chambre d'agriculture. Ouais.
Pour entrer dans un GAEC, parce qu'un GAEC, forcément, ça a une valeur commerciale, donc c'est une entreprise comme une autre, donc ça veut dire qu'il y a des parts à souscrire, donc tout ça, comment on fait pour avoir les fonds, les liquidités pour entrer dans une exploitation, parce que c'est pas rien quand même.
Ben ça, c'est le. Il y a l'aspect.
Familial qui joue derrière un peu.
Oui, et puis l'aspect. Formaté, quoi. Mais donc là, déjà, on est content que son fils ou sa fille reste sur l'exploitation. Donc après, à partir de ce moment-là, on trouve toujours une solution pour arranger les choses, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau des parts sociales, on ne peut pas sortir du jour au lendemain tout cet argent. Et puis voilà, quoi. Après, c'est un état d'esprit. Moi, je le fais pas pour. Ouais, je sais que même si le jour où je suis à la retraite, je partirai pas sur un voilier, quoi. Donc, je continue à rester dans mes montagnes du Diois et puis à aider ceux que je peux aider, quoi.
En fait, cette transmission, c'est tout simplement d'être là, de le faire ensemble et de continuer jusqu'au bout. Vous allez mourir dans l'exploitation, en fait, jusqu'au bout.
Oui, quoi. Oui, oui.
C'est ça, quoi.
Oui, parce que...
C'est joyeux, c'est joyeux.
Non, mais c'est joyeux, mais enfin, on va aller jusqu'à la fin, tranquillement. C'est plus que de la transmission, c'est presque un partage commun.
Oui, c'est un partage au quotidien. Et puis, il y a des... Quoi, y a tout ce que je fais, moi, je fais... tous les travaux que je fais sur l'exploitation, c'est fait avec amour. Comme je disais, quand, par exemple, pour la tente, la tente, moi, je suis aussi bien à tendre qu'à aller faire du vélo ou faire du ski, quoi. Voilà, et c'est comme ça, c'est mon tempérament. Et je dis tout le temps que je suis débordé, mais je trouve toujours le temps de faire plein de... Quoi, je fais plein de trucs, et voilà.
Et ça a été transmis, ce virus-là, à Thibault, alors.
Voilà, oui, et puis peut-être. C'est...
Toi aussi, tu fais que ça.
C'est génétique, ouais. Presque. Hein. J'ai l'impression. C'est encore possible pour un fils d'exploitant de reprendre une partie de l'exploitation familiale et par la suite de reprendre la totalité. Est-ce que ça aurait été aussi facile si ça avait été quelqu'un de l'extérieur qui venait reprendre l'exploitation? Quand on voit maintenant ce que peut représenter en termes de patrimoine une exploitation, comment est-ce que c'est encore possible de s'installer? Racheter un cheptel, racheter des bâtiments
au niveau simplement financier, je pense que c'est très dur. Quoi, pour ma part, je le vois comme ça. Si j'avais pas de succession, tout ça, je serais content d'accueillir quelqu'un, quoi, et tout faire pour qu'il y ait ce que j'ai entrepris perdure, en effaçant un peu le côté financier, quoi, parce que c'est sûr que là, bon, par exemple pour le projet de Thibaut, projet de fromagerie et tout, s'il fallait tout partir en 2-0 matériel neuf, c'est tout de suite impossible. Ouais. Déjà que là, le projet, en ayant une structure assise derrière, il faut y croire, quoi. Mais bon, voilà. Après, quand on est dans le Haut-Diwa, dans les zones que d'élevage, il faut y croire et puis il faut avoir la volonté. Avoir la volonté, parce que sinon, si on ne se bat pas, on n'a rien, quoi.
Alors, quelles sont actuellement les principales inquiétudes d'un ancien exploitant qui commence déjà à avoir un petit peu de bagages et de bouteilles?
Pour l'instant, moi, j'en ai pas tellement d'inquiétudes.
Oh, c'est bien, ça. Ça fait du bien entendre. Les gens qui n'ont pas trop d'inquiétudes, mais quand on
connaît qu'il y a, c'est que les inquiétudes, moi, il faut... quand on travaille toute la journée et réfléchir, à partir du moment où on n'a pas trop à réfléchir, quoi, parce que si pendant on vient de passer un mois à se poser des questions métaphysiques là, et avec des nouvelles circulaires toutes les semaines sur la PAC, passer ça, après il faut aller de l'avant, quoi, et parce que si on veut rester ici, il faut se battre, quoi, il faut se battre, oui, parce que c'est pas, on sait pas que on sait. En restant simple producteur de base ou tout ça, on sait que pour ici, pour le Diwa, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment devenir un acteur local et s'investir.
Et Thibaut, quelles sont les inquiétudes ou les interrogations d'un jeune qui s'installe?
Les inquiétudes, c'est arriver à rembourser les enfants. Et puis voilà, sinon pour l'instant, voilà.
C'est pas mal, c'est positif ça aussi.
C'est positif. Ah, mais on est tombé sur vraiment une exploitation familiale très optimiste, c'est formidable. Ouais. Ça fait du bien à entendre. Bon.
En fait, il n'y a aucun problème là-bas. On est bien dans ces montagnes.
Et les problèmes, tu en trouves de partout, quoi. Mais après, je vois. Même des journées comme aujourd'hui, quand il y a des questions qui sont posées, tu dis oulala, c'est. Et ça me fait un peu bondir et tout le monde a des problèmes et après il faut savoir arriver à passer au-dessus, quoi. C'est pas facile pour personne et après voilà, chacun fait selon son humeur, selon son caractère et ouais, voilà, c'est...
Ah non, mais on voulait surtout pas vous entendre dire qu'il y avait des problèmes. Hein. Enfin, pas moi en tout cas.
Non, mais il y en a des problèmes, mais voilà. Et après, parce que bon, le projet de vache, de transformation fromagère de Thibaut n'est pas innocent non plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Moi, ça fait 25 ans que je suis installé et je vois très bien qu'avec un troupeau de 200 brebis, on ne peut pas motiver un jeune à rester sur une exploitation aussi. La seule motivation, c'est pas une motivation, mais on sait qu'on va toucher 70% du chiffre d'affaires qui va être fait de primes. Pour un jeune qui s'installe, c'est pas motivant. Après, on est dans une zone avec la clairette de Die où on vit du prix du produit et c'est là où il faut... Il faut aller, quoi. Il faut vivre du prix du produit, quoi. Et bon, le projet de Thibaut, c'est pour ça que moi aussi je le pousse sur ce côté-là, parce que vendre des agneaux à la ferme comme ça se passe aujourd'hui, pour un jeune, c'est pas motivant. Donc après, en transformation fromagère, on a la chance sur le Diwa, quoi, en vache, il y a une autre exploitation qui existe. Pour l'instant, les marchés sont pas bouchés. Et puis voilà, quoi, il faut faire du produit, du bon produit. Et puis là, on veut à tout prix rester ancré dans notre territoire.
Alors on parle beaucoup de, quand on parle de pastoralisme, on parle aussi beaucoup de l'entretien de ces paysages, de l'entretien de la montagne, et sans doute, en tout cas, que ça fait partie des motivations à être éleveur de brebis, d'en avoir plus de 100 têtes, pas uniquement que de faire de la viande.
Ben je vois dans les années 90, il y a des mesures agrées environnementales qui ont été mises en place, le tour des villages, surtout sur le Haut-Diwa, a permis de réouvrir des zones qui avaient été abandonnées par la mécanisation, du fait des pentes et tout ça. Et avec les troupeaux de brebis, on a permis, et ces mesures environnementales, on a pu maintenir des espaces ouverts autour des villages. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, tout le monde peut constater. Alors on peut aller se promener dans tous les villages du Haut-Diwa, parce qu'il y a des troupeaux de brebis qui sont restés. Et si ces troupeaux de brebis disparaissent, ou l'élevage tout simplement, parce qu'on peut faire pareil avec des chèvres, ça va être la mort accélérée de l'arrière-pays. Donc il faut à tout prix qu'il y ait de l'élevage qui reste dans ces communes-là, quoi. Et après, par contre, avec la problématique du loup, voilà, moi, on ne peut pas courir toute la journée derrière nos brebis. On peut le faire, il y a des périodes données, mais... tout l'été, on peut pas quoi, c'est plus possible. Et puis même au niveau moral, voilà. S'il faut penser toute la nuit, quand c'est qu'on va être attaqué et tout ça, c'est plus, pour moi, c'est plus possible quoi. Moi, j'aime mieux, voilà. Thibaut a fait son choix de partir, parce qu'au début, ça devait être une activité de brebis laitière, et puis après, c'est parti sur les vaches aussi par rapport à ça. Ouais. Cette problématique de prédation.
C'est un très bel enchaînement, puisque juste après, on va recevoir Christian Rey, qui a écrit un magnifique petit bouquin qu'on détaillera tout à l'heure, parce qu'il est passionné d'histoire, et il nous parle de l'éradication du loup, justement, au travers de l'histoire. Donc on y reviendra dans le détail.
Mais c'est vrai que cette question de la motivation, là, on le touche du doigt. Oui, c'est motivant d'entretenir comme ça les paysages, mais jusqu'à quel point? Et puis si on n'est même pas sécurisé pour le faire, alors comment se relancer? Voilà, un nouvel atelier des vaches, c'est un avenir un peu moins risqué, mais pour autant, est-ce que ça va pas déplacer le problème un petit peu? Est-ce que les vaches vont pas finir par se faire attaquer?
Ben, ça risque, un jour ou l'autre, ça risque, hein, parce que chaque fois on recule, parce que le jour où il y aura plus de brebis, ils s'attaqueront, ils s'attaquent déjà aux vaches, hein. Mais voilà quoi, après, en attendant, dans ce laps de temps, il faut bien faire quelque chose quoi, et si on reste les bras croisés, ben on n'avance pas, donc...
En tout cas, merci pour cette belle image d'exploitants qui ont décidé de ne pas rester passifs, à l'image de tous les exploitants d'ailleurs qu'on rencontre sur le territoire au quotidien. C'est assez révélateur justement de la dynamique de ce métier, c'est que vous ne baissez jamais les bras, donc bravo pour ça et merci à vous.
Merci.